les êtres humains et la planète aussi. On en vit des dramatiques conséquences encore aujourd'hui dans ce moment. La solution de Dieu, il aurait pu tout effacer, recommencer, il aurait pu envoyer des anges, il aurait pu inventer quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, il choisit de continuer de travailler avec ces espèces de petits machins à deux pattes, les êtres humains. Et c'est par eux qui ont amené les problèmes qu'il veut amener une solution. On pourrait dire, sans manquer de respect à Dieu, que Dieu a beaucoup de foi. Parce que croire que ça va être possible par les hommes, il n'y avait que lui pour le croire. Alors, il choisit un homme qui s'appelle au début Abraham, hein, et qui va devenir Abraham, qui signifie « père d'une grande nation ». Au travers de cet homme qui devient un peuple, il va proposer, ça se passe sur des siècles, vous vous rappelez, avec Moïse et tout cela, un cadre de vie. Ce cadre de vie est là pour essayer donc de nous ramener, on est sorti du plan de Dieu, on est sorti de la relation, vous vous rappelez, et puis il va nous proposer un cadre qui soit un chemin pour notre vie. Alors on se trouve en tout cas dans cette période qu'on appelle celle de l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus sur terre, on se retrouve à une croisée des chemins où on doit se poser la question, quel chemin pour notre vie ? On a résumé sous le terme les 10 commandements, hein, ce qui résume la loi, la perfection de Dieu. Et puis, un autre chemin qui a été résumé par ce qui me fait plaisir, qui nous était présenté, symbolisé par le livre de l'Ecclésiaste avec cet homme très riche et sage, entre guillemets, qui décide de tout essayer. Les 10 commandements, ben, c'est parfait, mais c'est inatteignable. Alors, on arrive un petit peu, ça peut servir de modèle pour nos sociétés, c'est intéressant, mais on n'arrive pas à les pratiquer parfaitement. Et puis, si je prends juste le chemin de ce qui me fait plaisir, ben, ça donne le monde dans lequel on vit aujourd'hui et on voit que les conséquences sont lourdes. Un petit rappel, la liberté humaine, c'est je fais ce que je veux, mais je ne choisis pas les conséquences, je les subis. Alors, au travers de tout ce parcours, il va y avoir une troisième voie proposée qui n'est pas du tout un mélange des deux, une eau tiède faite à partir du chaud et du froid. C'est une voie nouvelle, hein, un chemin nouveau. Et là aussi, ça va se passer par un mélange entre l'intervention de Dieu, et même plus que l'intervention de Dieu, la personne de Dieu qui va s'incarner dans un humain, avec un Messie qui est promis. Alors, au travers de ce peuple qui a été choisi, hein, donc vous avez suivi, il y a eu Abraham, il y a eu ses descendants, il y a eu, etc. Il y a un Messie qui doit venir. Messie signifiant celui qui a reçu l'onction pour régner, pour être roi. Et il est attendu. Mais attention, ce Messie ne vient pas apporter un troisième ou un quatrième ou un énième cadre. Il est venu pour un cadre qui serait dire ce qu'il faut faire, pas faire, s'améliorer, payer ou rembourser. Non, hein, il est venu nous amener autre chose. Ce qui jusque-là était gravé sur la pierre, la loi de Moïse, maintenant Christ va nous amener, ce Messie va nous amener, puisque Christ et Messie, c'est le même mot, hein, en deux langues différentes, il va nous proposer maintenant de le graver dans les cœurs. On passe de quelque chose d'extérieur à quelque chose intérieur à l'être humain, de quelque chose qui est basé sur des lois à une relation intérieure. Alors, comment ça va se passer, ou plutôt par qui ? Ben, ça, c'était la séance 6 sur la naissance de Jésus, avec une naissance très singulière pour un sauveur singulier. Et ça nous amène à la séance 7, qui était la dernière que nous avons vécue ensemble en direct. L'exigence de Jésus. L'exigence de Jésus, elle nous est présentée par ce récit avec ce monsieur Nicodème. Et le choix, en fait, c'était naître une deuxième fois. Naître une deuxième fois. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre et qu'on va reprendre un petit peu aujourd'hui. Mais c'était l'exigence de Jésus pour cet homme qui paraissait parfait. Alors, c'était un petit peu long, mais c'était indispensable. La suite va être plus courte. Nous arrivons aujourd'hui à notre thème du jour, la 8e séance, la générosité de Jésus. Et aujourd'hui, pour avancer, on va faire un petit peu différemment. On va commencer directement avec le texte dans Jean au chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 42, parce qu'après je ne vais plus vous lire les versets. Hein.
Mais Philippe, quelqu'un peut le lire, hein, si jamais.
Allez-y.
Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près d'un champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné l'eau de vie. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici. « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu en as eu cinq, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent les disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Qu'est-ce que tu lui demandes ? » Ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors, la femme laissa sa cruche et s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, « Maître, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Et il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde.
Ouf.
Toi, Philippe.
Voilà. Ouais. Désolé, à un moment, ça a coincé, je ne pouvais plus passer les pages. Mais on est retombé sur nos pieds. Alors, Nicodème était un homme respectable, selon les critères de la société. Hein, il pensait avoir tout fait bien. Et il va apprendre dans sa discussion avec Jésus que ce n'était pas suffisant. C'est pour ça que le chapitre précédent s'appelait « Les exigences de Jésus ». Même pour quelqu'un qui pensait avoir à peu près accompli la loi, il lui fallait quand même naître une deuxième fois. Et voilà. Maintenant, on va se retrouver avec une dame qui est, du point de vue du jugement social des gens, pas du point de vue de Dieu, complètement l'opposé de Nicodème. C'est une femme qui est connue pour avoir eu plein de maris, et elle vit avec un qui n'est pas encore son mari. Alors, pour cette femme qui est à l'opposé de Nicodème, selon le jugement social, il y a quand même aussi de la part de Jésus une réponse qui s'adresse directement à son cœur. Peut-être juste vous préciser un petit détail historique pour la compréhension du texte. Vous ne savez peut-être pas qu'est-ce que c'est Samaritains, parce que nous, de nos jours, on parle des bons Samaritains, hein, à cause d'une parabole de Jésus d'ailleurs. Les Samaritains et la Samarie, c'était un territoire. Et c'est un territoire sur lequel le peuple d'Israël, des centaines d'années avant l'époque de Jésus, hein, à l'époque où les royaumes d'Israël et de Juda se sont séparés, le peuple d'Israël s'est mélangé avec d'autres tribus qui n'étaient pas d'Israël et ont fait ce que Dieu avait interdit de faire en se mélangeant. Et puis, il est sorti de ça une religion qui avait des points en commun avec le judaïsme, mais qui était différente. Donc, pour les juifs orthodoxes, pour les juifs stricts, les Samaritains, c'était vraiment une horreur. C'était le symbole du mélange, du péché, etc., etc. Ce qui fait qu'un bon juif n'adressait pas la parole à un Samaritain. Voilà. Donc, cette femme, elle est Samaritaine. Il faut aussi savoir que c'est une femme, puisque on l'a déjà dit, mais qu'à l'époque de Jésus, dans la rue, comme ça, les hommes et les femmes ne se parlaient pas. Et que non plus personne n'allait au puits à l'heure de midi, parce que c'est l'heure la plus chaude dans un pays chaud. On allait au puits le matin tôt ou le soir tard. Et justement, le puits, c'était l'endroit, c'était un petit peu comme le bistrot dans le sud de la France, ou je ne sais pas ici l'équivalent. Le marché de Chendon, c'est l'endroit où les gens se retrouvent pour bavarder, cancaner, etc., etc. Et donc cette dame qui était socialement rejetée parce qu'elle n'avait pas une vie en accord avec les normes qui étaient celles de sa culture, elle choisit d'aller au puits à l'heure la plus chaude, donc la plus difficile, dans le but de rencontrer personne. Et là donc elle rencontre Jésus. Et ben en fait, la première chose qu'on peut retenir, ça c'est des choses qui vont vous servir pour la discussion après, hein. c'est que Jésus sait tout d'elle. Il le fait avec beaucoup de tact, il l'agresse pas, il la juge pas, mais par une petite question qui mène à une autre question, puis à une autre question, vous avez lu le texte, et c'est un texte que je vous encourage à lire et à relire chez vous dans la semaine qui va venir. C'est un des plus beaux textes de l'évangile de Jean, la façon dont Jésus va traiter avec cette dame. Hein, donc, il sait tout d'elle, et comme il sait tout de toi, s'il n'a pas changé. Il la rejoint là où elle est, et il fait pareil pour nous. Et puis, cette dame, elle a quelque chose d'extraordinaire, c'est que lorsque Jésus décrit sa situation, elle fait quelque chose qui est très difficile à faire, elle ne se justifie pas. Elle ne commence pas en disant « Oui, mais tu comprends, le premier me battait, le deuxième était alcoolique, le troisième était moche, et le quatrième… » Non. Jésus lui dit ce qu'il a à lui dire, hein, et elle est honnête avec elle-même. Elle fait face à sa situation, sans expliquer pourquoi, comment. Voilà, c'est comme ça. Et ça pose la question « Et moi ?» Alors, au départ, cette dame, elle était venue chercher de l'eau. Et comme je ne voudrais pas changer, même si nous sommes dans une situation un peu particulière, on ne se voit pas directement, on n'est pas dans le même endroit, il y a des traditions que j'aime garder. Et je vais vous passer un morceau de musique qui est extrait d'une comédie musicale que j'ai beaucoup regardée il y a une 15 ou vingtaine d'années. Donc certains d'entre vous n'étaient pas nés ou tout petits. Une comédie musicale du Petit Prince. Ça s'appelle « Chercher la source ». Voilà, la mélodie est un peu mélancolique, je vous l'avoue, mais le texte est très beau, je trouve. Chercher la source, chercher ce qui va nous rassasier. Et en fait, ce que Jésus va proposer à cette dame, c'est la même chose qu'il a proposé à Nicodème, mais c'est dit avec d'autres mots. Il est toujours question d'une renaissance intérieure, sauf que cette fois, il est parti avec un autre exemple parce qu'il se trouvait dans une situation où ils étaient assis au bord d'un puits et lui avait besoin d'eau pour son corps et elle avait besoin d'eau pour son âme. Et c'est quelque chose de magnifique. Elle va pour chercher une source. En fait, elle allait chercher de l'eau. Et elle va trouver une source qui étanche l'âme. Lorsque Jésus lui dit « Mais si tu savais à qui tu parles, il te donnerait à boire et tu n'aurais plus jamais soif. » Et bien sûr, elle dit « Mais donne-moi cette eau, j'aurais plus besoin de venir au puits. » Et il parlait d'une eau intérieure. Une eau qui désaltère et qui donne la vie éternelle. Et juste pour nourrir aussi aux discussions, la vie éternelle, ce n'est pas juste une vie sans fin, parce que l'enfer aussi, c'est une vie éternelle. Mais c'est une vie où on est reconnecté avec Dieu par la nouvelle naissance. Et c'est ce que Christ est venu proposer, et c'est quelque chose qui est plein d'espérance, parce que c'est une source qui jaillit en nous, pour maintenant et pour l'éternité, mais qui déjà aujourd'hui nous donne cette qualité de vie. C'est ce qu'il a proposé à Dicadème, c'est ce qu'il propose à cette dame, et on va continuer de voir dans les fois suivantes. L'espérance que Christ nous propose est magnifique, elle est universelle, elle est grande, elle est sans fin, elle est infinie, et elle est entièrement, intimement personnelle. À chacun, il va le dire avec ses mots à lui, pour rejoindre nos cœurs. Alors voilà, c'était tout ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui et j'espère que vous avez pu suivre et que ça pourra nourrir nos petits groupes par la suite. Merci beaucoup pour votre attention.